boko haram ya kore mu tun a doro.
Boko haram ont commencé à attaquer le village de Doro. Ils ont tiré sur tous ceux qui bougent et j'ai dû fuir avec ma famille. Il n'y a plus personne aujourd'hui à Doro.
Ça, c'est son grand frère qui a été tué.
Est-ce que tu connaissais celui qui a tué ton frère?
Ils sont dans le même quartier et il le connaît aussi.
Il y a un traumatisme psychique qui est là. Il y a des crises de panique qui sont là. Les bouffées délirantes aiguës, des schizophrénies qui sont là également.
François Hollande se rendra en fin de semaine prochaine au Nigeria. Le président de la République participera au sommet régional sur la sécurité, un sommet consacré à Boko Haram. Le mouvement islamiste sévit depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria, mais aussi de l'autre côté des frontières, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Malgré la mise en place d'une force multinationale par les quatre pays, la capacité de nuisance de Boko Haram reste impressionnante. La secte a changé de stratégie. À défaut de pouvoir gagner du terrain, elle maintient la terreur par des attentats suicides. Selon la Banque mondiale, le groupe a causé la mort d'au moins 20 000 personnes. Il a aussi provoqué une grave crise humanitaire. 2 millions de personnes déplacées en 3 ans, dont 1 300 000 enfants. Les enfants qui sont aussi enlevés, on se souvient des lycéennes de Chibok, abusées sexuellement ou utilisées comme bombes humaines. Quel est encore le pouvoir de Boko Haram aujourd'hui? Comment les habitants de la région du lac Tchad tentent-ils de se protéger? Comment les rescapés pensent-ils leurs blessures physiques et psychiques dans les camps de réfugiés? Lac Tchad, fuir Boko Haram, c'est un reportage signé Valérie Crova avec Annie Bro à la réalisation. Corentin Cohen, doctorant au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, est l'invité de ce magazine. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez contribué au dernier numéro de la revue Afrique Contemporaine, dont le dossier s'intitulait « Comprendre Boko Haram ». Vous, depuis combien de temps est-ce que vous vous intéressez à Boko Haram ?
J'ai commencé à m'intéresser à Boko Haram à la fin de 2013, quand le groupe n'était pas encore très connu. On n'en parlait pas parce que on n'a pas vraiment de contact avec le Nigeria, on n'a pas de racines ou de liens coloniaux. Et on a assez peu de recherches en fait sur le Nigeria en tant que tel, sur cette partie de l'Afrique anglophone.
Et alors justement, comment est-ce que vous arrivez à vous informer ce mouvement? Parce qu'aller sur le terrain, c'est plutôt risqué.
Alors aller sur le terrain, c'est assez difficile. La plupart des réseaux téléphoniques étaient coupés. La presse locale, nationale, on va dire même camerounaise, tchadienne, nigériane, est assez peu présente. Et donc ça impliquait d'aller faire ces recherches sur place. En essayant de s'approcher le plus possible des zones de conflit et d'être au plus proche des réfugiés qui peuvent apporter des informations et permettre de comprendre ce qui s'est passé bien avant que Boko Haram devienne connu avec l'enlèvement des Chibok Girls et percevoir que c'était un problème depuis 2, 3, 4 ans en fait.
Et qu'on n'avait pas perçu depuis la France et les autres pays occidentaux. Merci. Exactement. Corentin Cohen. Je vous ferai réagir bien sûr tout à l'heure au reportage de Valérie Crova. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors où est-ce que vous nous emmenez exactement?
Je vous emmène dans la région du lac Tchad et dans la petite ville de Bagassola. C'est à 375 kilomètres de la capitale N'Djamena. Il faut savoir que le lac Tchad, c'est une région stratégique parce que le lac délimite la frontière entre quatre pays, le Nigeria, le Cameroun, le Niger et bien sûr le Tchad.
On écoute votre reportage.
Aujourd'hui, c'est jour de marché à Bagassola.
C'est comme d'habitude, aujourd'hui c'est samedi, c'est le jour du marché. Donc tous ces monde que vous voyez qui vient de descendre ce pirogue là, ils habitaient tout autour, à l'entour de Bagassola. Donc ils viennent pour assister le petit marché.
Ils viennent des îles aux alentours, c'est ça?
Oui, ils viennent des îles aux alentours de Bagassola.
Bonjour. Donc là, nous sommes au milieu de femmes qui débarquent des bidons. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces bidons, là?
Ça, c'est du lait caillé.
Du lait caillé.
Du lait caillé, oui.
Vous pouvez lui demander d'où elle vient?
Elle vient de Bolaregui. C'est non loin, à peu près une vingtaine de kilomètres de Bagassola.
C'est sur une île?
Oui, oui.
Qu'est-ce qui a changé depuis l'attaque du marché de Bagassola? Il y a moins de monde?
Bon, depuis l'événement du 10 octobre 2015 jusqu'à nos jours, donc ce qui a changé, il y a moins de nombre. parce qu'il y a certains gens, jusqu'à après l'événement, ils ont eu peur. Jusqu'à là, il y a des gens qui ne viennent pas au marché. Donc nous avons formé des comités de vigile tout autour au marché. À la sortie, à l'entrée, les gens vont fouiller tout le monde. Ils vont voir qui est qui et ils viennent d'où. Et puis après ça, on te laisse entrer au marché.
Il y a beaucoup de militaires là, dans la région?
Bon, dans la région, il y a beaucoup de militaires. Il y a beaucoup.
Ils surveillent?
Oui. Ils font la surveillance de la ville la nuit à partir de 21h. Ils vont rouler jusqu'au petit matin pour sécuriser la population et des biens. Même le matin, le jour de samedi, à l'entrée nord-est, il y a des militaires avec les civils. Ils restent et ils font maintenant les fouilles, entrée et sortie.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ça va et vous? Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici?
Nous, la population de Bagassola, on a été victime de l'attaque de Boko Haram. On a donc décidé de prendre nos précautions et d'être vigilants pour que cela ne se répète pas encore.
Là, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on est à l'entrée du marché, là. Hein?
Oui, c'est l'entrée du marché et de la ville.
Comment ça se passe avec l'armée? Il y a des militaires, là, avec vous?
Nous sommes des civils. Si quelqu'un refuse d'être fouillé ou qu'on soupçonne quelqu'un, on doit informer les militaires.
Bonjour, madame. Vous fouillez les femmes?
Oui, moi, je fouille les femmes.
Moi, j'ai vu que vous fouillez aussi les enfants, les jeunes filles, les petites filles, en fait.
Oui, que ce soit des vieilles femmes, des petites filles et même des nouveau-nés.
Vous sentez s'il y a quelque chose autour du ventre?
En touchant, si je sens quelque chose, je l'enlève pour voir, même si c'est un portable.
Quand il y a eu l'attentat, c'était des kamikazes, c'était des hommes, des femmes, c'était... Vous savez?
D'après ce qu'on sait, c'était des femmes qui portaient les explosifs.
Le gouvernement, il a pris des mesures, par exemple, il interdit le port de la burqa. C'est bien, ça?
Bon, sur le plan religieux, c'est autorisé de porter la burqa. Mais si l'État l'a interdit, c'est une bonne décision. Parce que des gens profitaient de mettre la burqa pour se faire exploser. On ne pouvait pas les identifier.
Comme tous les marchés d'Afrique, le marché de Bagassola est le lieu de vie par excellence. Malgré la chaleur suffocante, les habitants de tous les villages avoisinants convergent une fois par semaine ici avec leurs dromadaires ou leurs ânes pour acheter et vendre des marchandises. Le marché de Bagassola a été visé par un attentat suicide en octobre dernier, attentat qui a fait 15 morts et une quarantaine de blessés. Personne n'a oublié ce jour. Le marché était bondé. Vous n'avez pas peur de venir au marché?
On a eu peur. Chaque fois, quand on vient là, on est soucié. Est-ce que je peux sortir sain et sauf? Est-ce que l'événement n'aura pas lieu? C'est comme ça qu'on est soucié.
Qu'est-ce que vous avez sur la tête là?
Ça, c'est du sel.
Votre boutique, elle a été totalement détruite?
Là, pour ça, donc, nos boutiques, nos biens ont été tellement détruits et rien n'est resté.
L'attaque, elle s'est produite où exactement sur le marché?
L'attaque a eu lieu là où il y a le matala, c'est exactement c'est ici.
Donc c'est à 10 mètres en fait, hein?
Je peux même dire que 10 mètres, même c'est loin. Quoi. Même le jour de l'événement, les chairs des gens, le sang, tout ça, là, j'étais même salué de mes habits aussi.
Vous étiez recouvert de sang?
Oui, oui. J'ai recouvert même du sang.
Vous avez été blessé?
Blessé. Je ne suis pas blessé, mais j'ai eu la panique.
Bonjour. Est-ce que vous vendez vos marchandises, vos chaussures là?
Non, il n'y a pas autant d'activité qu'avant. Vous voyez, il y a des tomates, du kombu. Le prix du kilo a augmenté. On vient du matin jusqu'au soir et on n'arrive même pas à vendre un kilo. Comme on n'est pas loin de la frontière du Nigeria, les prix évoluent avec la monnaie du pays, le Naira. Le change n'est plus le même. Ça a des répercussions sur la cherté de la vie. Comme les prix ont augmenté, l'activité s'est ralentie.
Et ça, c'est lié à tout ce qui se passe dans la région, à Boko Haram? C'est lié à tout ça?
Oui, c'est lié à Boko Haram.
Ça vous fait peur, vous, Boko Haram?
Oui, bien sûr, on a peur.
Elle était là le jour de l'attentat?
Oui, j'étais là. L'attentat a eu lieu de l'autre côté du marché. On a juste entendu les cris et le bruit de l'explosion. On a tout laissé, on s'est enfui. On n'a pas été blessé, mais on est quand même victime des pertes de nos biens.
Comment vont les affaires? Est-ce que les prix ont augmenté?
Bon, c'est très augmenté même, très augmenté le prix.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui a augmenté?
Par exemple, le sac de riz, avant on vendait à 20 000 francs, maintenant c'est devenu 25 000 francs. Le sucre, au début on vendait le sac à 25 000 francs, maintenant c'est devenu 28 000 francs.
Français CFA.
Ngala,
matarbi yenda, minegurtu, gurdu yako, konate gurdu rwalira.
Bon, le maïs, à chaque fois on achetait à 15 000, 15 000, maintenant c'est devenu 25 000 francs le sac.
Ngala. Bon, c'est un des mendes de l'aide.
Les tops que vous voyez, avant on vendait à 3 000 francs, maintenant c'est devenu 4 000 francs.
Quoi, ça, le tissu là?
Gratin. Ouais, c'est ça même.
Le pagne, ça c'est un pagne.
Le pagne.
Et tout ça, c'est lié à ce qui s'est passé, à l'attentat de Boko Haram?
Avant c'est très calme, toute chose c'est de moins cher, mais après l'événement de Boko Haram, vu maintenant la fermeture de la frontière, la distance, donc c'est là qui a augmenté le prix. Et des fois les Boko Haram vont même attaquer les gens pour arracher leurs biens, c'est ça qui a même causé l'augmentation du prix.
Depuis que Boko Haram est apparu, tout le commerce autour du lac Tchad est bouleversé. Les poissons séchés du Nigeria n'arrivent plus à Bagassola. Les bœufs tchadiens ne sont plus exportés vers les pays voisins, ou alors après une très longue route. Nous rencontrons le vice-président des commerçants de Bagassola.
L'aspect économique est très changé. Maintenant, si on voulait partir au Nigeria, on fait 4 jours avant d'aller au Nigeria.
C'est-à-dire que vous êtes obligé maintenant de prendre la route et d'aller au Niger ?
On prend la route d'aller au Niger, on fait une journée. Après, on va aller dormir à Diffa. Diffa, on prend un bus, on va aller dormir à Zender, au Niger. Après Niger, on peut prendre un taxi pour aller dormir au Kano. Donc la route est très, très longue. Parmi nous, les commerçants, beaucoup de commerçants, maintenant, là, ils n'ont pas les activités par rapport à la route.
Et puis ça coûte cher, j'imagine, de faire cette route pendant 4 jours.
C'est très très cher. Et puis le coût des marchandises même, c'est maintenant, sont devenus très chers. Donc, Bagassola, là aujourd'hui, on est en crise.
Avant, vous alliez au Nigeria, ça vous prenait la journée? Vous traversiez le lac?
Oui, avant on traversait le lac pas une journée. Maintenant, donc, pour aller au Niger, et puis la route est très très longue pour cela.
Pourquoi vous ne pouvez plus traverser le lac maintenant?
Les problèmes de Boko Haram. Les gens sont dans les îles.
Les gens de Boko Haram, ils se cachent dans les îles?
Oui, ils se cachent dans les îles.
Nous quittons Bagassola. Nous traversons des camps de déplacés tchadiens, reconnaissables à leurs huttes de roseaux séchés. Nous avons rendez-vous avec Salta. Cette petite fille de 10 ans, à la voix à peine audible, est rentrée récemment dans sa famille. Salta a été amputée d'un bras. Elle a été grièvement blessée dans l'attentat du marché de Bagassola, dont elle ne se souvient pas.
Quand tu es partie ce jour-là, tu es partie d'ici, de ta maison, pour aller au marché?
Oui.
Toute seule ou tu étais avec quelqu'un?
J'étais avec quelqu'un.
Vous avez marché, mais c'est long pour aller jusqu'au marché. Combien de temps tu mets ?
On a mis 6 heures.
6 heures ? C'est long ?
C'est pas loin.
Tu arrives donc au marché et tu devais acheter quoi ?
Je suis allée acheter du sel, du piment, du gombo, du manioc.
C'est quelque chose que tu fais d'habitude ? D'aller sur le marché ?
Oui.
Tu as été soignée en fait à N'Djamena, c'est ça ? Tu te souviens de l'hôpital ?
C'est un grand bâtiment couvert.
Tu es restée combien de temps, tu te souviens ?
Je ne me souviens pas.
3 mois, paraît-il, que tu es restée 3 mois. Est-ce que tu as rencontré des petites filles, là-bas, à l'hôpital ?
Oui. Elles ont été blessées comme moi, après l'attentat du kamikaze.
Toi, tu as été gravement blessée au bras ?
J'ai été blessée au bras et au ventre.
Depuis que tu es revenue dans ta maison, il y a des choses que tu pouvais faire comme aider ta maman. Maintenant, comment ça se passe ?
Avant l'attentat, j'ai aidé ma mère pour aller chercher du bois en brousse, chercher de l'eau, laver des tasses. Maintenant, je ne peux plus rien faire.
Mais tu as ce bras-là quand même, tu peux l'utiliser ?
Non, je n'ai pas de force dans ce bras. Rien que de mettre la nourriture dans la bouche, c'est difficile. Donc je suis obligée de demander aux gens de me donner à manger.
Tu peux quand même t'amuser avec des petites filles de ton âge. Tu arrives quand même à jouer avec ?
Non, je ne peux pas jouer.
Elles jouent à quoi ?
Elles dansent sur la musique.
Et toi, tu peux pas danser, par exemple ?
Moi, parfois, je chante et elle danse.
Je m'appelle Liliane Kastner. Je suis chef des urgences à UNICEF au Tchad. Basé à N'Djamena.
Nous avons rencontré dans la région du lac Tchad des victimes, des petites filles qui étaient sur le marché de Bagassola, qui a été donc ciblée par un attentat suicide. Ces petites filles, aujourd'hui, leur vie est extrêmement compliquée. Elles ne peuvent plus participer à la vie familiale. Elles ne peuvent plus faire les mêmes tâches qu'auparavant, aider leur maman. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'exclusion de ces jeunes filles ?
C'est exactement ça. Ces filles, pour beaucoup de raisons liées au contexte, que ce soit directement victime d'un attentat ou pour d'autres raisons, elles sont à fort risque d'exclusion sociale. L'appui psychosocial, déjà, est très important, y compris leur facilité de leur réintégration sociale et que la communauté ne rejette pas ces filles pour des raisons quelconques. Après, on essaye de créer un environnement où elles ont d'opportunités que peut-être n'avaient pas avant. Donc ces filles qui se trouvent maintenant dans un camp de déplacés peuvent avoir accès à l'éducation, ce qui n'était pas du tout le cas avant, mais peuvent avoir accès à la santé, même la santé reproductive, la prévention de VIH, beaucoup d'interventions qu'UNICEF et les autres acteurs sur place sont en train de mettre en place pour assurer un environnement protecteur et de faire le mieux possible pour qu'effectivement ces filles ne soient pas exclues.
Il y a un aspect assez incroyable qui est que la grande majorité des personnes qui commettent des attentats sont des filles, des femmes. Comment on peut l'expliquer ça ?
Exactement. Je pense, si je ne me trompe pas, environ 75% des personnes qui commettent des attentats, c'est des filles. Je pense que les enfants se trouvent parmi les groupes les plus vulnérables. Parmi ces vulnérabilités, les filles sont encore plus vulnérables. C'est des personnes qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui culturellement ont une certaine place dans la société, qui peuvent même être données par une famille qui ne comprend pas, qui pense qu'elle va aller se marier, et qu'elle-même peut-être n'a pas forcément une idée claire de quelle alternative elle peut avoir. Donc souvent, c'est des filles qui ne comprennent pas ce qu'ils vont faire, qui ne veulent pas le faire. Quand elles se rendent compte, on a eu des cas au Tchad, même des attaques qui devaient se commettre, mais que finalement, l'explosion a eu lieu dans un terrain vide. On voit un manque de volonté, en fait. C'est pas des participants qui veulent faire ce qu'elles sont obligées de faire.
Direction le camp de réfugiés de Dar es Salaam, la maison de la paix, à une demi-heure de piste de Bagassola. Des tentes numérotées, données par le HCR, se dressent au milieu d'une étendue désertique, balayée par un vent brûlant. Il fait 45 degrés en ce moment. 5 000 réfugiés nigérians vivent dans ce camp.
Ça fait deux jours que je suis arrivée ici et quand je suis arrivée, les autres réfugiés du camp m'ont beaucoup aidée. Ils m'ont construit la tente dans laquelle je vis aujourd'hui. Ils m'ont également donné à manger du mil et du sorgho pour pouvoir préparer à manger à mes enfants. Je m'appelle Zainabou, j'ai 35 ans.
Zainabou, vous êtes arrivée ici il y a deux jours à Dar es Salaam après un long parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Boko Haram,
alors les Boko Haram ont commencé à attaquer le village de Baga, au Nigeria. Et moi, je vivais entre-temps avec ma famille et mon mari à Doro. Et de Baga, les Boko Haram ont continué. Ils sont venus encercler notre village de Doro. J'ai dû quitter avec mon mari et mes enfants. Et pendant la fuite, mon mari a reçu un coup de feu dans le dos. Et au moment où je me retournais pour voir s'il respirait encore, mon bébé a dû me glisser de mes bras et je suis tombée. Ensuite, j'ai vu que mon mari était mort. Donc j'ai dû prendre mon bébé qui était blessé aussi au front puisqu'il est tombé et j'ai dû continuer ma route. J'ai fui jusqu'à Maiduguri, une ville du Nigeria. J'ai passé 5 mois dans un site de déplacés à Maiduguri et de là j'ai quitté pour aller dans ma ville natale pour retrouver ma famille. De Maiduguri, j'ai continué à Diffa et au Niger, une ville du Niger, et j'ai fait 1 mois dans un site de déplacés. Ensuite de Diffa, j'ai dû repartir au Nigeria dans ma ville natale à Kinasaram. Et j'ai pas retrouvé ma famille à Kinasaram. Et de Kinasaram, je suis partie à Gété. Gété, c'est une ville frontalière du lac Tchad. Et j'ai passé 10 mois à Gété parce que je faisais des petits commerces, je fabriquais des filets pour les pêcheurs. Et j'ai passé 10 mois et de là-bas, il y a eu une attaque. Et après l'attaque, j'ai dû fuir et arriver à Dar es Salaam, au camp de réfugiés de Dar es Salaam, au Tchad.
Vous pouvez nous expliquer le jour où Boko Haram a attaqué votre village de Doro ?
Rana Assavar.
Les Boko Haram ont commencé d'abord par attaquer plusieurs villages, Baga, ensuite Melfo, et ils sont venus dans notre village. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à fouiller toutes les maisons qui étaient donc dans notre village. Et ils ont tiré sur tout ce qui bouge et j'ai dû fuir avec ma famille.
Vous les connaissiez, vous, les gens qui ont attaqué Doro ?
Ceux qui ont attaqué nos villages sont composés des étrangers, donc des personnes qu'on ne connaissait pas, et d'autres étaient les autochtones de notre village. On les connaissait très bien. Ces autochtones ont tué donc le reste des personnes qui étaient restées dans le village de Doro.
Est-ce qu'il y a des gens, des habitants de Doro qui sont toujours en vie ?
Lorsque le village de Doro a été attaqué le samedi, le dimanche et le lundi, certaines personnes qui avaient fui donc dans la brousse étaient reparties dans le village. Mais les Boko Haram étaient cachés et ils ont égorgé ces personnes. Il n'y a plus personne aujourd'hui à Doro.
Vous comprenez Boko Haram qui se prétend un mouvement islamique.
Il est vrai que les Boko Haram sont des musulmans, mais moi personnellement, je ne comprends pas leur type de religion. Je fais confiance à Allah et j'espère que tout sera bientôt fini.
Vous avez envie de vous remarier ?
J'ai envie de me marier, mais pas maintenant parce que j'ai des enfants de ma voisine à ma charge et pour un mari, c'est beaucoup d'enfants. J'aimerais d'abord ramener les enfants de ma voisine et ensuite me remarier. Aujourd'hui, les enfants en souffrent beaucoup et ils ont beaucoup souffert avec moi et j'aimerais juste qu'ils aient à manger. La personne adulte peut supporter la faim, mais un enfant, c'est très difficile. Et c'est pourquoi je voudrais juste avoir de la nourriture pour mes enfants.
Le camp de Dar es Salaam dispose de plusieurs espaces pour les enfants qu'il faut occuper en dehors de la classe. Les journées sont longues. Cet après-midi, ils sont une vingtaine à participer à un atelier de dessin. La majorité de ces enfants vient de la même ville du Nigeria, Baga, qui a été attaquée il y a un an et demi par Boko Haram. Attaque qui s'est accompagnée du massacre de centaines de civils. Les dessins des enfants présentent des similitudes. Est-ce que tu peux nous expliquer, Abakar, ce que tu as dessiné? Il y a beaucoup de choses dans ton dessin.
Les Boko Haram sont venus arracher les voitures des militaires nigériens et ils sont en train de fusiller les paysans.
Ça, tu l'as vu, ça?
Oui.
Il l'a vu.
Donc là, il y a une voiture. Donc Boko Haram a volé la voiture des militaires. Puis ensuite, il tire sur quelqu'un qui est monté dans un arbre, c'est ça?
Oui.
C'est ça.
Ça, c'est une maison? C'est ta maison?
Ça,
c'est un Boko Haram qui est venu trouver une personne à sa porte. Il veut fuir. Et il lui a fusillé devant sa maison.
C'est pour ça que tu as mis du rouge?
Il dit rouge, là, c'est le sang.
Et ça, c'est qui, ça?
C'est lui qui court pour entrer dans la pirogue pendant l'attaque.
Et tu es tout seul?
Il a laissé ses parents derrière.
Et tu as retrouvé tes parents après?
Ses parents sont sortis vers le Nigeria. Et lui, c'est lui seul qui est venu par voie fluviale ici au Tchad.
Ça, c'est la pirogue, ça?
Rouane.
Ça, c'est la pirogue.
Et ça, c'est quoi, ça? On voit une autre personne qui tire sur une autre personne.
C'est un Boko Haram. Pendant la fuite, il a trouvé une personne. Il est venu devant lui et le fusillé au ventre.
Ça aussi, tu l'as vu de tes yeux?
Il a vu.
Et la dernière personne, là, c'est qui, ça? Qui est par terre avec du sang, avec une tache rouge?
Cette personne a été égorgée par les Boko Haram.
C'est un dessin très dur, hein? On voit des gens qui se font tuer, il y a du sang.
Ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu, c'est ça qu'il a dessiné.
Qu'est-ce que tu as dessiné là? Tu peux nous expliquer?
Il y a une personne qui est en train de fusiller, qui avait le fusil. Une personne est dans sa chambre. Un Boko Haram est venu fusiller cette personne. Il veut brûler toute la maison.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Ça, c'est une pirogue à moteur. Et une personne, il y a le conducteur.
Mais toi, tu as pris un bateau comme ça?
Oui. Il a monté la pirogue à moteur. Ça, c'est dans leur village. Ça, c'est leur maison.
Dans le village de Baga, ça.
Et dans le village de Baga.
Nina wana.
Ça, c'est lui.
Wana yaya na.
Ça, c'est son grand frère qui a été tué.
Est-ce que tu connaissais celui qui a tué ton frère?
Baba mutu. Et angu madaya.
Il dit la personne est âgée. Et ils sont dans le même quartier et il le connaît aussi.
Il avait quel âge ton grand frère?
Yamuta. Chakaranchi. Chabier.
15 ans. Son grand frère a 15 ans.
Ça, c'est quoi, ça?
Il veut être docteur. Ça, c'est l'hôpital. Lui, il est docteur dedans.
So
Au fil des mois, la vie s'est organisée sur le camp. En cette chaude matinée, trois nouveau-nés sont baptisés sous une tente où la messe est célébrée tous les dimanches matins. Les chrétiens ne sont que 300 sur les 5000 réfugiés.
Je vous informe que l'enfant de Zira et Susana Kouji, l'enfant répond docteur Gaspar Simon.
Il y en a qui ont dit que ma soeur, Mrs. Simon Zira, qui est en train de se faire. Docteur Gaspar Simon.
Le docteur Gaspar ne fait pas que donner son nom au bébé qu'il met au monde. Il soigne toutes les maladies inhérentes au mode de vie des réfugiés et à cette partie du monde. Ici, on est dans le bâtiment de consultation. Hein.
Oui.
Est-ce que vous arrivez à comptabiliser le nombre de consultations que vous avez? C'est tous les jours ou c'est une fois par semaine, deux fois par semaine?
Bon, la consultation ici, c'est tous les jours, hein. Du lundi au dimanche. Même le samedi et le dimanche, il y a un service minimum. Donc, tous les jours, nous venons travailler.
Merci. Combien de consultations?
Bon, en moyenne, 60 consultations par jour que nous faisons. Oui. Il y a les réfugiés, mais il y a les autochtones qui viennent également fréquenter et les déplacés également.
Les déplacés tchadiens.
Oui, les déplacés tchadiens. Oui.
Pourquoi on vient vous voir?
Bon, ici, il s'agit généralement des infections respiratoires et le paludisme qui est récurrent. Nous avons également les maladies diarrhéiques également. Oui.
Les diarrhées qui sont liées à quoi?
Oui, les parasitoses intestinales. Oui. Des fois, nous avons les mères, quand les enfants défèquent, elles essayent de nettoyer ces déchets-là avec les mains, mais sans toutefois laver avec des savons, elles utilisent les mains pour donner à boire encore aux enfants. Et ça peut être à l'origine des diarrhées, oui.
On vous suit?
Donc ici, nous avons la consultation adulte. Après la consultation, les malades passent au niveau de la pharmacie. Donc ici, nous avons notre dépôt pharmaceutique qui est là. Et donc, une fois le malade fini à la consultation, il passe de l'autre côté à la fenêtre qui est dehors pour pouvoir recevoir ces médicaments.
Il y a des antibiotiques, il y a quoi?
Oui, nous avons essentiellement les antibiotiques, les antipaludéens. Nous avons également les antipyrétiques. Quand un malade a de la fièvre, on donne ça pour pouvoir casser la fièvre. Et il y a également les anti-inflammatoires qui sont là. Les antiacides, notamment de l'aluminium. Pour les cas de gastrite, on essaye de donner pour pouvoir faire une solution de tampon et ça soulage les malades.
Là, on parle vraiment des pathologies, on va dire, médicales, mais est-ce que vous assurez aussi un suivi psychologique?
Bon, souvent, il y a des cas, comme nous savons, nous sommes dans le camp des réfugiés, donc souvent, il y a le stress qui est là, il y a des crises de panique qui sont là, et quelquefois, nous rencontrons même les cas de schizophrénie qui sont là également, oui. Les bouffées délirantes aiguës, tout ça, bon, il y a ce genre de pathologies également psychiatriques que nous rencontrons, oui.
Suite aux attaques que les gens ont subies?
Oui, les gens ont subi, il y a un traumatisme psychique qui est là, donc beaucoup plus ils sont exposés. C'est un facteur de ces pathologies mentales. Il y a les délires qui sont là, soit il y a des hallucinations, tout ça, bon, c'est un mélange de tout, quoi. Ou bien l'anxiété qui se manifeste, voilà, moi je ne sais pas pourquoi, mais tous les jours j'ai peur, je n'arrive pas à dormir, il y a l'insomnie qui est là, tout ça, donc bon. C'est un mélange de tout, quoi.
Depuis deux mois, un atelier de couture a vu le jour à Dar es Salaam. Des jeunes filles, toutes nigérianes, apprennent à utiliser des machines à coudre. L'atelier est animé par Jonathan Madi.
Bon, moi, je suis né au Nigeria. Mon père est tchadien. Il est parti entrer dans l'armée. Je suis né au Nigeria. Donc, je suis nationaliste nigérien.
Et vous avez fui en même temps que les autres personnes, quand il y a eu l'attaque?
Oui, on a quitté le même jour. On a pris le pirogue et nous sommes venus. Certains, dans le pirogue, les pirogues sont foncées dans l'eau. Et certains, même, on les a tirés même dans le pirogue, dans l'eau, même. Ils ont mort dans l'eau, comme ça. Et le 3 janvier, si quelqu'un qui te dit, il connaît le nombre exact des personnes ou des femmes ou des enfants qui étaient tués, il ment. Il n'y a pas de nombre exact.
C'est l'attaque contre la ville de Baga. Hein. C'est l'attaque la plus meurtrière, je crois, hein, qu'il y a eu du côté du Nigeria, hein, au nord du Nigeria.
Oui, c'est l'attaque contre la ville de Baga. Ça a commencé déjà de Cross, Baga, Melfo, Douro, Bundram, tous. C'est le même jour. Bon, j'ai cousé les habits pour les femmes. Donc, les Boko Haram ont pris mon nom, j'ai cousu les habits pour les femmes. Sexy, c'est comme ils disent, c'est haram toujours.
Le fait que vous faisiez des habits pour les femmes, Boko Haram considère que c'était haram, c'est-à-dire péché.
Oui, ils disaient que le petit habit, par exemple, pour moi, c'est tout court, non? Ici, exactement là. Ils disent que ça, c'est haram. Il faut qu'on couse jusqu'en bas. Donc, ils ont écrit notre nom pour nous égorger ou bien venir tuer nous à la maison. C'est pour cela que y a un de mon ami m'a dit, bon, vraiment, mon frère, il faut qu'on aille en Djamena.
Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe au Nigeria? La situation est un peu meilleure ou pas?
Pour le moment, on peut dire que maintenant, ça peut un peu. Mais vers les îles, là, il y a toujours les Boko Haram qui attaquent.
Les membres de Boko Haram, ils sont toujours sur les îles hein, du lac Tchad?
Oui, oui, ils sont là. Même dehors des îles, des lacs, là même, ils sont là. La semaine passée même, on a écouté qu'ils ont parti attaquer les armées nigériennes qui à la frontière Niger-Nigeria. Même vers Bama, on a écouté qu'ils ont fait, ils ont attaqué aussi.
Ça, c'est au Nigeria?
C'est Nigeria toujours.
C'est l'état de Borno?
L'état de Borno, oui.
Ici, on est dans l'espace Amis des enfants.
Oui.
Et tous les jours, vous animez un atelier de couture ou plusieurs fois par semaine?
Oui. Non, on commence lundi, de lundi jusqu'à jeudi. Et j'ai 13 filles âgées de 15 à 14 ans. Je les forme comme la couture dame-homme.
Dame-homme?
Oui.
Dans votre pays, votre métier,
oui,
qui était de coudre,
oui, oui, hein,
des habits pour femmes, des jolis habits avec des couleurs, c'est considéré par Boko Haram comme quelque chose qui n'est pas conforme à la religion. Est-ce que vous considérez que faire ça aujourd'hui ici, est-ce que c'est une victoire pour vous?
Bon, c'est une victoire pour moi, pour les filles là aussi, parce que les Boko Haram n'existeront pas beaucoup de temps. Un peu de temps, il n'aura plus le nom de Boko Haram au Niger. Si on répare, par exemple, les jeunes filles ici, elles se marient, si je les apprends bien, elles connaissent bien à coudre. C'est ça ma victoire. C'est une victoire pour moi, pour les filles là aussi.
Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Lundi? Le 25
avril 2016.
25 avril 2016. Qui peut nous citer la table de multiplication?
Une victoire aussi pour tous ces enfants contraints de fuir leur pays à cause de Boko Haram, dont le nom signifie « l'éducation est un péché ». Revanche du destin, ces enfants apprennent aujourd'hui à lire et à écrire.
Ça fait 4 mois que je fréquente l'école de Dar es Salaam.
Tu es originaire de quelle ville?
À Douro. Je suis née à Douro.
Tu allais à l'école à Douro?
À Douro, il y a un islamique. Je fréquentais seulement l'école coranique à Douro.
Qu'est-ce que ça t'apporte de venir à l'école qui n'est pas l'école coranique, c'est l'école normale ici?
Mes frères, mes petits frères ont commencé à fréquenter l'école, ils ont commencé à réciter, à parler français. Et c'est ce qui m'a poussée à venir m'inscrire également et à fréquenter. Je veux apprendre le français et aussi parler le français. C'est pourquoi je me suis inscrite à l'école.
Tu veux continuer tes études?
Je veux continuer l'école jusqu'à ce que j'ai un diplôme. Si je finis mes études, je veux travailler dans un centre de santé.
Tu as quel âge?
J'ai 16 ans. Je m'appelle Habib Ibrahim. Habib. J'apprends à lire et à écrire.
C'est difficile?
C'est très difficile, mais si tu as la volonté, tu peux apprendre.
Comment vas-tu?
Comment vas-tu?
Tu vas bien?
Tu vas bien?
Merci beaucoup, mon ami.
Merci beaucoup, mon ami.
S'il vous plaît, monsieur.
S'il vous plaît, monsieur.
Je voudrais voir Hafsa.
Je voudrais voir Hafsa.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Valérie Crova pour ce reportage dans la région du lac Tchad. Corentin Cohen, je rappelle que vous êtes doctorant au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Vous finalisez une thèse qui porte entre autres sur Boko Haram. Vous nous expliquiez tout à l'heure que vous alliez sur le terrain, donc vous avez vous aussi rencontré des réfugiés, vous avez passé du temps avec eux. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce que vous avez vu ou dans ce qu'ils vous ont dit ?
En fait, ça porte à... En termes d'expérience personnelle, d'abord sur le courage de la plupart des gens que j'ai rencontrés, comme on le sentait un peu dans le partage, sont passés d'un point à l'autre, qui ont fait parfois des centaines, voire des milliers de kilomètres, sans vraiment savoir où est-ce qu'ils allaient, qui pensaient qu'ils pouvaient se réfugier à un endroit, et qui, malgré tout ça, ont réussi à traverser ces épreuves et à essayer de trouver, à recréer un foyer, un sentiment d'être chez eux. Et il y a une autre chose qui m'a particulièrement frappé et qui est intéressante aussi par rapport à certains des débats qu'on a ici, c'est que le plus gros de l'effort d'accueil de ces populations, donc vous disiez 2 millions de personnes, les estimations aujourd'hui c'est plutôt 2,9 millions de personnes, il a été porté par les communautés locales qui sont déjà les plus pauvres en fait et les plus situations de plus grande fragilité au monde. Et donc malgré la communauté internationale finalement a pris en charge peut-être 20-25% de l'aide. Donc il y a ça, et ensuite il y avait le récit que les gens me faisaient, qui avait rien à voir avec les grands discours qu'on a pu tenir sur Boko Haram, avec cette question du fait qu'il y a une affiliation avec l'État islamique, et plutôt de voir que c'était un peu un attrape-tout de la violence, qu'il y avait des gens qui s'étaient engagés sans avoir forcément des raisons idéologiques, en tout cas pas forcément celles qu'on peut imaginer étant purement religieuses, qu'il y a des gens qui ont pris une opportunité qui s'offrait à eux dans la vie, qu'il y a des gens qui ont été recrutés de manière forcée, et que même au-delà de ça, localement, il y a eu des questions, des affiliations politiques, beaucoup d'enjeux qu'on tend à sous-estimer en regardant un peu ces questions de loin, en tout cas depuis l'Europe.
Alors justement, on va essayer de creuser tout ça avec vous. On décrit volontiers Boko Haram comme le mal absolu, c'est un peu le méchant par excellence, au point, dites-vous, de lui attribuer parfois des actes de violence qui ont été commis par d'autres.
Oui, alors ça joue au niveau individuel, c'est-à-dire que il y a plein de dénonciations où ça devient intéressant de dénoncer quelqu'un parce qu'on peut récupérer sa maison, ses affaires ou ses fournisseurs, enfin si c'est professionnel. Donc on va, enfin une, le fait est qu'il y a plein de gens qui s'accusent d'être Boko Haram, c'est dénoncent à la police, à l'armée, en sachant quelles conséquences ça peut avoir. Donc ça c'est au niveau individuel. Au niveau, on va dire collectif, il y a plein d'actes qui sont attribués à Boko Haram parce qu'il y a des notables ou des chefs locaux qui pensent qu'ils peuvent attirer l'attention de l'armée et recevoir plus d'aide, qui ont tendance à dire que c'est Boko Haram qui vient. Et même sur certains actes qui sont peut-être liés à Boko Haram, les motivations des individus qui y participent, c'est peut-être de régler un conflit agraire, un enjeu de qui va contrôler cette terre qui est cultivable, qui est plus fertile qu'une autre. Et donc là, Boko Haram a réussi à se greffer sur des enjeux politiques ou sociaux qui vont pas forcément avoir. Ça peut être des rivalités entre différentes communautés. Sur le lac Tchad, typiquement entre les pêcheurs et les agriculteurs qui sont déjà installés. Et donc là, on a un effet un peu de label, on met ça sous le nom de Boko Haram. Mais peut-être que, enfin, les motivations de certains individus sont peut-être plus proches de ces raisons que du terrorisme international.
Et les gouvernements ont envie de présenter Boko Haram comme une menace extérieure, alors que c'est un peu plus complexe que ça.
Oui, parce que c'est intéressant, c'est plus intéressant de présenter ça comme une menace extérieure. On peut demander des ressources internationalement, de l'aide militaire, avoir un appui, et surtout avoir...
Se dédouaner un peu.
Voilà, un mandat un peu pour peut-être... pouvoir faire un peu ce qu'on veut, et au nom de Boko Haram, pouvoir être tranquille et pouvoir commettre en tout cas de facto beaucoup d'abus qui ont été dénoncés en termes de droits de l'homme, d'arrestations extrajudiciaires, d'exécutions extrajudiciaires. Et donc ça laisse aussi une liberté au nom de cette lutte contre le terrorisme.
Alors qu'il peut y avoir une responsabilité de l'État nigérian dans la montée de Boko Haram.
Exactement, et que Boko Haram était en fait capable de proposer des opportunités à des jeunes qui avaient pas d'emploi, qui se reconnaissaient pas dans le système, et de proposer presque une idéologie religieuse qui, comme le marxisme l'a été, elle est peut-être un peu moins, mais l'a été au XXe siècle, a une force critique sur la corruption, sur la question du partage des richesses. Il propose quand même des idées assez fortes, et donc il y a une critique qui est pertinente pour les gens.
Valérie Crova.
Oui, vous avez écrit un article dans l'excellente revue Afrique contemporaine et vous expliquez que Boko Haram canalise les frustrations, rejette la modernité et aussi les institutions de l'État, notamment l'armée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
En fait, On parle de Boko Haram depuis 2009, mais c'est un mouvement qui existe depuis 2002-2003 et qui a été réprimé à plusieurs reprises par l'armée. Et qui a été réprimé de manière assez sanglante. Et l'armée, les interactions avec l'armée, on va dire, ont eu un rôle assez important dans la radicalisation et la montée en puissance de cette violence. Et le moment un peu fondateur du groupe, c'est en 2009, après qu'il ait lancé une vague d'insurrection, quand son leader, Mohamed Youssouf, à l'époque, a été exécuté en place publique à Maïdougouri.
Au Nigeria.
Au Nigeria, exactement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le groupe s'est radicalisé, a décidé de mener une guerre systématique contre l'État. Et là, au-delà de ça, qui a enclenché cette guerre sans limite, puisque toute institution finalement de l'État, c'est pas juste, on dit Boko Haram, ça représente aussi la constitution, l'idée d'un État au-dessus de l'islam, les institutions publiques, l'école, les institutions gouvernement locales ont été ciblées après ces événements. Et donc là, c'est devenu une guerre totale, on va dire. Il y a eu tout un process de radicalisation, notamment du fait de ces abus. Et à partir de 2009, les différentes arrestations massives que l'armée nigériane a faites, en prenant parfois des familles de gens qui étaient accusés, sans les juger. Il y a 60% des détenus au Nigeria dans les prisons qui sont en attente de procès, donc ça, plusieurs milliers de personnes. Et ce sont ces abus qui ont fait qu'une partie de la population a eu le sentiment que ça pouvait être plus intéressant de soutenir Boko Haram que l'armée, qui aussi est corrompue, rackette. Abuse de ses pouvoirs.
Valérie. On entend un petit garçon qui explique que Boko Haram a pris la voiture de soldats nigérians. Est-ce que c'est habituel, ça? Est-ce que ça s'est déjà produit? Est-ce que ça vous semble crédible?
Oui, c'est une stratégie Boko Haram a eu une stratégie de pillage des banques, des institutions publiques, et une grande partie de son arsenal, des véhicules qu'il emploie, viennent des stocks de l'armée nigériane. On voit parfois même en treillis sur sa vidéo avec des armes qui viennent des stocks de l'armée nigériane.
Alors nous, quand on essaye de qualifier Boko Haram, alors on a peu de temps, on résume peut-être, on schématise. Quand on dit secte islamiste, groupe terroriste, est-ce que ce sont les bonnes expressions d'après vous?
Moi, j'essaie d'employer plutôt le terme de mouvement parce que ça agglomère, en fait, ça laisse une sorte de marge entre le fait. Enfin, ça pose la question, qu'est-ce que c'est faire partie de ce groupe? Et donc, est-ce qu'on fait partie de ce groupe si on accueille un membre de la famille qui fait partie du groupe, qui est de passage dans un village? Est-ce qu'on fait partie de ce groupe si on a un petit commerce et qu'on vend à Boko Haram du carburant? Alors, les autorités ont tendance à considérer qu'on mérite d'être arrêté au même titre. Mais est-ce que ce sont les mêmes raisons ou pas? Je crois pas. Donc, moi, je préfère parler de mouvement. Et après, sur le qualificatif de terroriste, je pense qu'il y a quand même une idéologie, qui a tendance à considérer que ces attaques sont légitimes contre toute la population, et donc pas faire de distinction entre civils, militaires. Donc c'est approprié, mais c'est un peu réducteur. C'est pas juste un groupe terroriste, dans le sens où il a quand même cherché à contrôler des pans de territoire, et où il a des interactions et des approches politiques.
Et le rôle de la religion ?
Je pense qu'il faut pas le sous-estimer. On a un peu peut-être, on pourrait tenter de le laisser de côté, mais c'est, il y a une doctrine. Il y a Mohamed Youssouf qui écrit un livre de prêches de référence qui sont wahhabites, avec l'idée clairement exprimée que, en fait, l'éducation occidentale, c'est aussi la constitution et l'État doit être en dessous de l'islam et de la loi de l'islam.
Et alors, en mars 2015, Boko Haram a prêté allégeance à l'État islamique. Vous aviez l'air de dire que la filiation entre les deux mouvements est quand même pas si évidente que ça.
Non, en fait, c'était d'abord une filiation de communication. C'est d'abord des vidéos qui sont faites où Boko Haram a, comme il l'a fait dans le passé, endossé les codes d'Al-Qaïda. Et plus récemment, à partir de 2013-2014, pris ceux de l'État islamique. On va dire que concrètement, ça se traduit par des mises en scène de décapitations, des exécutions, une esthétique un peu du gore, de la violence pure avec beaucoup de sang. Mais en termes de liens opérationnels, en tout cas jusqu'à juillet, août 2015, il n'y avait pas de combattants étrangers présents directement sur le terrain. Il y a des échanges de savoir-faire avec certains groupes armés de la région. Mais il n'y a pas de lien opérationnel direct, même s'il y a des responsables politiques américains qui ont déclaré récemment avoir intercepté un convoi qui serait venu de Libye en direction du Nigeria. Mais c'est intercepter un convoi d'armes, donc là aussi c'est pas des liens directs et c'est reste conditionnel.
Donc il y a des intérêts communs, ça permet d'avoir une communication plus efficace et une plus grande visibilité.
Exactement, c'est prendre ce nom, devenir un acteur puissant international, identifiable aussi, parce que Boko Haram, en tant que tel, ça parle pas beaucoup forcément. Mais là, on dit l'État islamique en Afrique. Donc ça habille, ça donne tout un habillage religieux qui est pas juste visuel, qui est pas juste des vidéos, mais qui fournit aussi des légitimations localement.
Valérie,
est-ce que on connaît les modes de recrutement de Boko Haram ?
Oui. Alors il y a plusieurs modes de recrutement et puis ils ont évolué en fait dans l'histoire du mouvement depuis 2009. Initialement, il y a eu des tentatives pour recruter dans certaines sectes religieuses. Il y a eu des enfants des rues dont le malam, le maître, a été intégré au fonctionnement de la secte, enfin de Boko Haram. Il y a eu ensuite des jeunes qui ont été payés pour donner des informations, pour pouvoir exécuter éventuellement quelqu'un. Donc là, le motif, c'est l'argent. Et puis après, il y a tous les réseaux locaux, donc avec la reconversion de certains coupeurs de route qui sont entrés dans le mouvement.
Alors les coupeurs de route, des bandits grand chemin,
on va dire, qui ont un savoir-faire militaire, qui sont capables de tenir des armes correctement et qui ont intégré le groupe, alors directement ou indirectement, qui ont pu être des sous-traitants ou qui ont pris le nom de Boko Haram aussi. Voilà, ça fait un des phénomènes que le label Boko Haram obscurcit et efface un peu, qui eux utilisent ce nom pour mener leurs actions. Et donc ils rentrent dans les villages en criant à la Wakba et ils savent que c'est un effet psychologique immédiat, les gens partent et ils peuvent mener leur pillage librement. Mais, donc il y a toutes ces différences de recrutement et de profil en fait. Il n'y a pas vraiment de profil type.
Mais dans le reportage de Valérie, on entendait ces témoignages qui disent qu'en fait l'assaillant c'est parfois un habitant du quartier.
Exactement. Il y a aussi des recrutements très locaux, des gens qui gardaient le secret sur leur appartenance et qui quittaient les villages ponctuellement, qui ont pu renseigner Boko Haram. Et puis dans les villages où Boko Haram arrivait en 2013-2014, ils avaient une démarche qui consistait d'abord à demander une forme d'allégeance, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être avec nous, est-ce que vous adoptez nos enseignements ou pas. Donc parfois ils allaient dans la mosquée du village, parfois ils se dirigeaient plutôt vers les autorités, les chefs locaux, et ils revenaient parfois plusieurs fois. La première fois, non, vous n'avez pas voulu, la deuxième fois, on insiste, et puis la troisième fois, ils rasaient ou pillaient le village. Donc il y a à ce moment-là des gens qui ont pu être tentés de joindre Boko Haram la première, la deuxième fois, peut-être par peur aussi, ou en se disant que ça pouvait être une opportunité.
Et alors on voit aussi que Boko Haram utilise des enfants qui en fait des kamikazes. Mmh. Quel est le processus en fait ? Comment est-ce qu'ils parviennent à faire ça ?
D'abord, selon les témoignages que j'ai pu recueillir, la plupart des gens disaient qu'il y avait une sorte de don obligatoire des enfants, parfois un sur deux, ou en tout cas une attention portée particulièrement à ces enfants. Et ils étaient souvent regroupés dans des lieux, tous ensemble, avec comme idée d'être éduqués, alors éduqués religieusement, et au bout d'un moment formés au maniement des armes, mais pas tous. Mais en tout cas, ça ne veut pas forcément dire qu'ils adhèrent, mais ils sont pris en commun. Et l'idée, c'est de former, à ce moment-là, c'était de former des combattants.
Et comment est-ce que Boko Haram justifie ça idéologiquement ?
Idéologiquement, il n'y a pas vraiment de justification.
C'est au service de leur cause, tous les moyens sont bons en fait.
Voilà, c'est au service, c'est pour faire l'État d'Islam, la maison de l'Islam, comme ils l'appellent. Et voilà, ça fait partie de la lutte.
Et alors, le financement de Boko Haram, il se fait comment ? C'est les razzias, parce que en plus, vous disiez que quand ils recrutent, il y a des gens qui payent, donc ça veut dire que eux, ils ont des ressources.
Alors, c'est fait à plusieurs niveaux, mais il y a cette logique de taxation. Il y a des attaques de Boko Haram qui ressemblent en fait à des attaques de bandits, où ils coupent une route, attaquent un bus et demandent à tout le monde de payer un petit peu. Et ceux qui peuvent pas payer les gardent, ceux qui peuvent payer les laissent partir. Donc ils se servent un peu sur ça. Il y a eu des pillages, des attaques de banques qui ont été faites. Et puis il y a eu des taxes. Boko Haram a essayé de mettre en place des taxes, donc en fonction des différentes régions autour du lac Tchad, sur différents produits, donc sur le poisson séché, ils prenaient une taxe sur tout le poisson qui venait vers le Nigeria, sur les trafics entre la frontière du Cameroun et du Nigeria, sur de carburant particulièrement. Et donc ils ont mis en place une sorte de prédation et de captation des ressources à tous ces niveaux.
Et ça marche toujours aujourd'hui ?
Non, ça marche plus aujourd'hui. Je pense que la majorité des ressources de Boko Haram viennent de ces pillages, de ces attaques.
Valérie Krova.
Alors, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, le mouvement, comme vous l'appelez, Boko Haram, a perdu de son influence. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Il y a un risque que Boko Haram fasse du lac Tchad son sanctuaire depuis que le groupe a été chassé de la plupart des villes et des villages du nord-est du Nigeria.
Alors le groupe a été chassé de la plupart des villages, mais la question c'est plus de voir s'il a été chassé par les actions des différentes armées de la région qui ont été organisées, qui sont organisées ensemble, ou s'il a changé de stratégie et qu'il a décidé de se replier dans certaines zones rurales où il est toujours présent, dans l'état de Borno. Et si c'est une stratégie délibérée d'en venir à des attaques suicides je rappelle, paralysent encore toute l'économie du pays. La plupart des marchés au Cameroun sont encore fermés, donc les gens ne peuvent pas travailler, pas vendre leur production. Et ensuite, sur le lac Tchad, il y a effectivement un refuge parce que c'est difficile d'accès.
Il y a beaucoup d'îlots.
Voilà. Tous les îlots, sur les monts Mandara, à la frontière du Cameroun, il y a aussi des lieux, des refuges possibles, dans la forêt de Sambisa. Et en fait, au sein du Niger, on regarde particulièrement ces trois états, mais il y a toute une partie un petit peu plus au centre où Boko Haram avait une présence à Gombe, Niger State, où on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui se passe.
Et donc Boko Haram pourrait encore se transformer ?
Voilà, comme le groupe l'a déjà fait en 2003, 2002, 2003, en 2009... En 2010, 2011, 2012, le groupe, à mon avis, est plutôt en train de se transformer. Ça veut dire qu'il n'a peut-être plus autant de membres. Il change de stratégie, de tactique, mais je ne pense pas qu'il ait disparu. Et c'est ce qui était dit à chaque fois que le groupe disparaissait pendant quelques temps. Et je crois que c'est une erreur de penser qu'il a disparu.
Oui, j'ai vu votre petit sourire triste quand on a entendu le couturier là, qui expliquait qu'il espérait qu'on serait bientôt débarrassé de Boko Haram.
Bah, je le souhaite, mais je pense qu'en fait, Boko Haram, il y a une opportunité peut-être... politique, c'est-à-dire que cette région qui était complètement délaissée par les différents gouvernements pour différentes raisons politiques, autant au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, je connais pas bien le cas du Niger, mais cette région était délaissée et donc peut-être qu'aujourd'hui elle va recevoir de l'aide internationale, elle va être plus prise en compte dans la politique nationale, plus représentée, plus d'investissements en infrastructures très basiques. Donc ça peut aussi être une opportunité pour les gouvernements de la région.
Et puis on a entendu qu'il y avait maintenant des vocations de docteur parmi les jeunes réfugiés. Merci Corentin Cohen. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques et relations internationales à Sciences Po Paris. Vous avez rédigé un article pour la revue Afrique Contemporaine intitulé « Boko Haram, l'impossible sociologie politique d'un groupe armé ». C'était le magazine de la rédaction « Lac Tchad, fuir Boko Haram ». Reportage de Valérie Crova, réalisation Annie Bro et merci à Élise Leu pour la technique. Vous retrouverez ce magazine sur le site franceculture.fr. L'émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 3 ans.